Florence Paracuelos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, une soutane et des caftans, le pape François, 266e souverain de l'Église, est promis à mettre un pied dans un pays du Golfe Persique, aux Émirats Arabes Unis. Dialogue interreligieux dans ce pays qui veut montrer une image de tolérance. Nous serons à Abu Dhabi dans un instant. Le sort des djihadistes français détenus en Syrie, la doctrine a changé officiellement depuis quelques jours. Vaut-elle aussi pour l'Irak ? Interview exclusive d'une Française condamnée et enfermée à Bagdad dans ce journal. Et réponse de Jean-Yves Le Drian à 8h20.
Oui, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères est l'invité du grand entretien de la matinale tout à l'heure. Dialoguez avec lui 01 45 24 7000.
À la une également, quelles questions pour un référendum envisagé pour le 26 mai, en même temps que les élections européennes. Impossible de toucher à la Constitution, selon les sénateurs qui arguent d'un délai trop court. La prime à la casse doublée depuis le mois de janvier, mais pas de ruée chez les concessionnaires. Le dispositif, pour l'instant, ressemble à une usine à gaz. L'affaire Baupin au tribunal procède pour diffamation intentée par l'ex-député écologiste contre France Inter et Mediapart. Et puis, le retour d'Engrenage, 7e saison à partir de ce soir sur Canal+.
France Inter.
Le chef de l'Église dans le berceau de l'islam, un pape en péninsule arabique, c'est une première dans l'histoire et c'est le pape François qui bénéficie depuis hier soir de l'hospitalité bédouine des Émirats Arabes Unis où il donnera une grande messe en plein air demain. Avec nous en direct d'Abu Dhabi, Mathilde Imberti, bonjour.
Bonjour à tous.
Mathilde, il y aura donc cette messe devant 130 000 chrétiens et ce sera l'image forte de ce voyage. Mais le but premier pour le pape, c'est de parler avec l'islam.
Oui, absolument. C'est une journée entièrement dédiée au dialogue avec l'islam aujourd'hui. Le pape se rendra cet après-midi à la fastueuse mosquée d'Abu Dhabi, puis il prendra la parole lors d'une rencontre interreligieuse devant un parterre d'imams et de rabbins. C'est le temps fort de ce voyage dans un pays qui se targue d'être plus tolérant que ses voisins. Les catholiques peuvent aller à la messe du moment qu'elle se tient dans des enceintes précises et fermées. Les Émirats répriment par ailleurs toute exploitation politique de la religion. C'est ensuite à Abu Dhabi que siège le conseil des sages musulmans, un cercle d'experts religieux présidé par le recteur de l'université Al-Azhar, le principal interlocuteur du Vatican dans le monde musulman. Le pape François, qui en est à son 5e voyage en terre musulmane, devrait dans son discours, attendu vers 15h ici, rejeter de nouveau la violence au nom de la religion et prôner la fraternité.
Et Mathilde, le pape est aussi attendu sur la question brûlante du conflit au Yémen.
Il devrait effectivement aborder la question ce midi en privé lors d'un entretien avec le prince héréditaire d'Abu Dhabi. Les Émirats interviennent militairement au Yémen aux côtés de l'Arabie Saoudite. Hier, de Rome, le pape a exigé le respect des accords de trêve et l'acheminement de l'aide humanitaire pour la population affamée.
Mathilde Imberti en direct d'Abu Dhabi.
Et à 8h03, c'est dans un autre pays du Golfe Persique que nous nous rendons à présent.
En Irak, d'où vous revenez, Sophie Parmentier, avec un témoignage exclusif. Bonjour Sophie.
Bonjour.
Nous l'entendons depuis ce matin, la voix de cette Française condamnée à 20 ans de prison en Irak pour avoir rejoint Daesh. Vous avez rencontré Mélina Bouguedir, elle est incarcérée à Bagdad avec sa petite fille de 2 ans, la plus jeune de ses 4 enfants.
Le bébé, vêtu d'un habit d'éponge à capuche bleue, s'agrippe au cou de sa mère comme la dernière fois que nous l'avions vu dans la cage de bois de la cour pénale de Bagdad où Mélina Bouguedir, 28 ans, avait été jugée en 50 minutes, condamnée à une peine de prison perpétuelle, en réalité 20 ans dans la loi irakienne. Une peine qu'elle n'avait pas comprise et dit toujours ne pas comprendre dans sa prison pour femmes où la directrice nous emmène mais sans jamais nous montrer la cellule de Mélina Bouguedir et son enfant. Nous sommes orientés dans une salle au mur décrépit. Mélina Bouguedir, la tête couverte d'un voile violet, une longue robe noire et dorée sur un pantalon de jogging, s'assied sur une chaise de plastique, surveillée de près pour cet entretien par une douzaine de responsables de la prison qui l'oblige très vite à nous répondre en arabe pour mieux suivre la conversation.
Ma fille est toujours avec moi. On est sur le même matelas.
Est-ce qu'elle a des jouets? Un jouet? Plusieurs jouets?
Non, elle n'a pas de jouets. C'est la même chose pour tous les enfants. Il n'y a pas de jouets pour les enfants dans la prison.
Mélina Bouguedir ajuste la barrette multicolore de sa fillette qui grignote un morceau de pomme. Elle se dit innocente. Elle répète qu'elle a été forcée de suivre son mari vers le califat de Daesh. Elle n'exprime pas de regrets. Son discours récurrent chez les femmes de djihadistes n'a jamais convaincu la justice irakienne. Pour pourtant, je suis seulement arrivée à Mossoul pour ne pas laisser partir mes enfants sans moi en zone de guerre, jure Mélina Bouguedir. Aujourd'hui, elle est séparée de ses trois aînés de 4, 6 et 8 ans qu'elle a laissé repartir en France et elle aimerait avoir le droit de leur téléphoner plus souvent, dit-elle, avec un message pour eux en français.
Mes enfants, je les aime beaucoup. J'espère que je vais bientôt les revoir, qu'ils ne m'oublient pas. Voilà, moi, je pense toujours à eux. Je vais essayer de rester endurante, parce que c'est difficile. Apparemment, on ne veut pas nous récupérer, donc... Et si l'État peut au moins autoriser des appels, ce serait bien quand même. J'aimerais qu'il y ait plus de photos, plus de lettres.
Mélina Bouguedir garde l'espoir d'un procès en appel dont elle n'a aucune nouvelle. Elle espère surtout purger une peine de prison en France où d'autres juges antiterroristes enquêtent aussi sur elle.
Sophie Parmentier, merci. Ce témoignage exclusif à votre micro, Sophie, est à retrouver en longueur sur franceinter.fr.
Et il est 8h06, si notre vote comptait double le 26 mai prochain.
À la fois pour élire les députés européens et pour répondre à des questions bien françaises. Un référendum comme issue à la crise des Gilets jaunes. L'idée fait son chemin, mais il faut faire vite. Élodie Forêt et Emmanuel Macron ne tranchera pas avant la fin du grand débat, pas avant la mi-mars donc.
Une décision le 15 mars pour un vote le 26 mai. Logistiquement, rien d'impossible, assure le ministère de l'Intérieur, prêt à toute éventualité et dont les services, nous dit-on, sont au travail et ont pris toutes les précautions nécessaires. Ils auraient notamment pré-réservé des bulletins et des enveloppes pour que rien n'entrave la décision d'Emmanuel Macron. Un calendrier serré qui, en revanche, aura des conséquences sur les questions posées. Tout ce qui touche à la Constitution, référendum citoyen, rôle du Sénat, participation citoyenne dans les instances, sera écarté, faute de temps, car il faudrait pour cela que le texte du référendum soit adopté de façon conforme par l'Assemblée et le Sénat. Ça demanderait 4 mois au minimum si tout le monde est d'accord, confie un sénateur. Un référendum envisageable donc, mais limité, et déjà très contesté par l'opposition comme au sein de la majorité.
Mais ça ne serait pas du tout opportun, juge effectivement le député En Marche, Mathieu Orphelin. Quand Marine Le Pen voit dans ce référendum une manœuvre pour détourner l'attention des élections européennes. Qu'en pense Philippe Grandjean ? Ce nom ne vous dit sans doute pas grand-chose. C'est pourtant celui d'un homme qui compte dans l'entourage d'Emmanuel Macron, d'autant plus après le départ d'une partie du cabinet du président. Lui va y faire son entrée officielle ce matin comme pilier de l'acte 2 du quinquennat. Portrait signé Yaël Gauze.
Discrètement, Philippe Grandjean a déjà traversé 40 ans de vie politique. Conseiller en stratégie et communication de Paul Quilès, DSK, Delanoë, Hidalgo, Hollande et Macron. Co-fondateur d'En Marche, mais libre, il y tient. À l'Élysée, il arrive comme conseiller spécial bénévole. 3 jours de présence physique par semaine, pas plus. Grandjean, l'anti-techno, son arrivée rassure le député Sacha Houlier.
C'est quelqu'un qui en plus a assuré une transition ô combien délicate à La République En Marche et qui a toujours un œil aiguisé, attendu. Sur la situation de ceux qui en ont le plus besoin.
Au plus fort de la crise des Gilets jaunes, Philippe Grandjean fait partie de ceux, avec François Bayrou, qui ont soufflé au président l'idée du grand débat. C'est Grandjean aussi, ex-dirigeant de la CFDT, qui a pesé pour un retour à plus d'horizontalité. Ce qui redonne de l'espoir au leader syndical Laurent Berger, Grandjean, un allié à l'Élysée.
Tant mieux, c'est quelqu'un de qualité, tout le monde le sait. Plus il y aura de personnes qui diront que les solutions à trouver ne peuvent pas se faire sans intégrer les corps intermédiaires, mieux ce sera.
Pas d'interview, pas de flash, Philippe Grandjean restera dans l'ombre. Il se voit comme un facilitateur, l'huile de coude de l'Élysée. Son premier défi, et il est de taille, sera de réussir la sortie du grand débat.
Le grand débat en banlieue. Aujourd'hui, Emmanuel Macron à Évry-Courcouronnes avec 300 élus et représentants d'associations. Plus concret que le grand débat, la prime à la casse, annoncée au mois de décembre. Jusqu'à 4000 euros pour changer sa voiture, pour une auto moins polluante, être versée aux 20% des ménages les plus modestes et à ceux qui font au moins 30 km pour aller travailler tous les jours. Ils y ont droit depuis le 1er janvier. 27 000 demandes ont été enregistrées, pas plus qu'avec l'ancienne prime. Il faut dire, Emmanuel Grabet, que le nouveau mécanisme est assez compliqué.
Interpellé par un auditeur du Téléphone Sonne la semaine dernière sur cette prime à la conversion, le Premier ministre Édouard Philippe a lui-même reconnu la complexité du dispositif.
On peut faire beaucoup plus simple pour qu'il n'y ait un seul interlocuteur et même que financièrement ce soit quasiment neutre.
Eric en fait l'expérience en ce moment. Pour troquer sa vieille essence d'il y a plus de 20 ans contre un monospace diesel récent et peu polluant, il s'est tourné vers un concessionnaire pensant bénéficier de la ristourne directement sur le prix d'achat.
Assez rapidement, on s'est rendu compte qu'il y en avait finalement très très peu parce qu'ils n'ont pas la trésorerie en fait suffisante pour pouvoir donc avancer. Et d'autre part, ils nous ont indiqué également que dans certains cas, ils avaient donc accordé une remise à des clients alors que leur ancien véhicule en fait n'était pas complètement éligible.
Des critères qui n'étaient pas forcément bien spécifiés au départ, comme fournir la preuve que le véhicule destiné à la casse était toujours assuré, qu'il était en possession de l'acheteur depuis un certain temps, etc. Eric en est donc réduit à sortir les 2000 euros de prime auxquels il a droit. En théorie.
On est presque sûr en fait d'être éligible, mais nous n'avons aucune information pour l'instant qui puisse nous dire effectivement quel sera exactement le délai de remboursement.
Mais les démarches ont beau être longues et fastidieuses, Eric reconnaît que le dispositif est efficace. Sans ces 2000 euros, il aurait dû se rabattre sur un véhicule plus ancien et donc plus polluant.
Emmanuel Grabert, revoir Tourcoing mais rester à Paris. Gérald Darmanin a fait son choix. Il reste ministre de l'Action et des Comptes Publics, dit-il aux Parisiens ce matin. La question du retour à la mairie de sa ville de Tourcoing s'était posée la semaine dernière après la mort de son maire Didier Drouard.
Il est 8h11, c'est un procès qui n'aura jamais lieu.
Celui des 14 femmes qui ont accusé l'ancien député écologiste Denis Baupin d'agression sexuelle et de harcèlement. L'affaire révélée par Cyril Gradiani de France Inter et Lénaïque Bredou de Mediapart avait été classée sans suite pour cause de prescription. Pourtant, ces femmes vont raconter ce qu'elles ont vécu devant un tribunal aujourd'hui dans un procès pour diffamation intenté par Denis Baupin contre France Inter et Mediapart, Jean-Philippe Deniaud.
Parce qu'il ne souhaite pas que ce procès devienne son procès, Denis Baupin a choisi de ne pas venir aux audiences et de laisser son avocat lui faire retrouver son honneur. Maître Emmanuel Pierrat veut une condamnation symbolique pour cette enquête journalistique qu'il qualifie de fallacieuse.
Il y a une absence totale de retenue dans les propos des journalistes de France Inter et de Mediapart qui consiste à présenter comme coupable mon client sans aucune retenue, sans respect de la présomption d'innocence, sans rien. Et ça me semble extrêmement dangereux, juridiquement et déontologiquement.
C'est un peu curieux de vouloir défendre son honneur et de ne pas venir devant le tribunal, relève l'avocat de France Inter qui rappelle qu'en classant l'affaire, le parquet de Paris avait précisé que si la prescription devait l'emporter, certains faits dénoncés auraient pu être qualifiés pénalement. L'enquête journalistique était donc sérieuse pour Maître Basile Adair.
Ce que les journalistes ont rapporté est porteur d'une atteinte à la réputation. Je crois que c'est difficilement contestable. Pour autant, ils vont justifier qu'ils ont fait ce qu'on appelle une enquête sérieuse, complète, contradictoire, et que tous les éléments d'information qu'ils ont apportés à leurs auditeurs ou leurs lecteurs sont tout à fait vraisemblables.
Toute la semaine, une quinzaine de femmes viendront raconter au tribunal ce qu'elles estiment avoir subi. D'autres viendront défendre l'honneur de Denis Baupin. Et même si ce n'est pas son procès, l'ancien député, même absent, aura du mal à y échapper.
Jean-Philippe Deniaud, les enjeux du procès sont sur franceinter.fr. Les pompiers de Paris, de plus en plus agressés, 300 agressions l'an dernier. C'est 60% de plus qu'en 2017, alors que les interventions n'ont cru dans le même temps que de 4%. L'épave de l'avion qui transportait Emiliano Sala, localisé dans la Manche, le bureau d'enquête sur les accidents aériens britanniques précisera où ce matin le footballeur argentin avait disparu avec le pilote de l'avion il y a 15 jours sur la route de Cardiff où il venait de signer après avoir quitté le club de Nantes. C'est une société privée qui a mené les recherches et qui a retrouvé l'avion. Et la 23e fut la mauvaise, la première défaite de la saison de Ligue 1 pour le PSG, concédée à Lyon, 2-1 et devant l'entraîneur de Manchester United dans les tribunes lyonnaises qui n'en a pas perdu une miette à 8 jours du 8e de finale de la Ligue des Champions entre les deux clubs. Enfin, si Gilou, Laure, Tintin et Joséphine Carlson vous ont manqué, c'est que vous êtes fan de la série Engrenage de Canal+, dont vous attendez la saison 7 depuis un an et demi. Ça y est, c'est ce soir. D'ici là, on peut d'ores et déjà aller écouter des podcasts d'Engrenage sur les plateformes type Deezer, des épisodes à côté de la série, voilà qui est tout nouveau, Alexandra Akoun.
Entrer dans l'univers d'une série télé uniquement par les oreilles, en laissant l'image de côté, est-ce à dire que Canal+ cède à son tour à la mode du podcast, que pour vendre une série aujourd'hui, il faut offrir plus de produits dérivés qu'un simple mug, que le making-of est devenu ringard, Vera Peltekian, chef de projet à la création originale de Canal+.
Engrenage a une dimension mémorielle, c'est la série qui a le plus de longévité à la création originale ici. En plus, c'est une série du réel. Et ça joue énormément, parce que dans cette dimension de grandes questions de société que convoque le polar d'Engrenage, il y a aussi quelque chose de vraiment très concernant.
Dans le prochain épisode, comment la série et son réalisme ont-ils séduit les milieux policiers, judiciaires et carcérales?
Il y a une fonction de témoignage apportée par le podcast que le making-of ne peut pas apporter à mon sens.
Au-delà de l'aspect patrimonial d'Engrenage et de la volonté de faire vivre ce patrimoine, il y a bien sûr une stratégie marketing sur un marché de plus en plus concurrentiel, Olympe Messonnier, de la promotion digitale de la création Canal.
Aujourd'hui, Netflix ou même d'autres éditeurs commencent à nous rattraper sur nos terrains éditoriaux. Comment raconter ce Canal Plus de 2019 aux millennials, par exemple? Typiquement via un podcast qui permet d'humaniser, d'exprimer une autre image de Canal Plus. Ça nous reconnecte et ça nous permet d'engager la conversation avec des internautes qui rebondissent sur ce qu'on leur dit dans les podcasts.
Et si le succès est au rendez-vous, l'expérience pourrait être renouvelée, mais pas question de systématiser, assure la chaîne cryptée.
Voilà, la série préférée des policiers et des magistrats ce soir sur Canal+.
Merci Florence Paracuelos.